cobuzz.com.
Rencontre par Marc Zisman.
C'est un grand spécialiste des instruments à cordes anciens, c'est également le fondateur de l'ensemble Acrima Consort. Philippe Foulon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu, enfin on vous a invité parce que vous venez de publier un somptueux double CD consacré à Vivaldi et plus précisément à l'intégrale des sonates pour violoncelle, qui vient de sortir donc chez Native. Vous aviez publié il y a 2 ans, je crois, un album consacré à Marin Marais qui s'appelait Couplet de folie.
Oui, tout à fait.
Alors justement, spécialiste des instruments à cordes anciens, vous êtes venu avec l'un de ces instruments qui est assez particulier. Alors comment s'appelle-t-il déjà ?
Un violoncelle à l'inglese, violoncello à l'inglese en italien, dans le terme même de Vivaldi, puisque bon, la trace qu'on a qui est très intéressante, c'est donc un concerto de Vivaldi pour violoncelle obligé à l'inglese. Obligato à l'inglese. Et ce terme à l'inglese, évidemment, a fait l'objet d'une étude approfondie. Avec un ami spécialiste des sources musicales, qui est musicologue Jean-Charles Léon. Et puis également Philippe Lecorf, qui est aussi un collègue musicien et musicologue, avec lequel aussi on a fait des recherches à l'ARIA sur toute cette thématique des instruments à l'inglese et des instruments d'amour. Hein. Peut-être le terme d'instrument d'amour serait plus global. Et donc nous avons fait beaucoup de recherches sur les textes, et il y en a pas mal, hein, aussi bien des textes anglais, français, allemands, même parfois des textes français mais écrits en latin. Chose intéressante qui est de faire des traductions de ces textes.
Donc il y a un côté un peu Indiana Jones, c'est-à-dire que vous partez à la recherche, vous avez des œuvres,
oui,
des
voilà,
partitions.
Et... Ça, c'est complètement ça. Et puis évidemment, après, c'est avec le luthier où ça a été passionnant de se mettre sur la piste de cet instrument, puisqu'il n'y en a aucun qui nous est parvenu dans l'histoire. Pourquoi ? Parce que, bon, sûrement, ils ont été à l'origine... retransformé au 19e siècle pour être transformé, disons, en instruments normaux, en violoncelle courant. Seulement, après toute cette recherche, donc avec les amis luthiers, j'aurais demandé de me construire cet instrument un peu mythique et bon, qu'est-ce que ça pouvait être. Et donc, c'est là où je me suis aperçu que beaucoup de textes parlaient aussi bien de viol à l'inglese, violoncello à l'inglese, Violetta à l'inglese, dont on parle par exemple Mozart, le père Mozart et Léopold, dans un de ses ouvrages pour violon, donc muni de 6 ou 7 cordes en boyau et de 14 cordes sympathiques, je veux dire, donc on a des documents. Puis bon, on a retrouvé quand même aussi pas mal de viols d'amour dans les musées, et c'est là où la notion de l'inglese est aussi intéressante, puisque la plupart de viols d'amour n'étaient pas forcément à l'inglese. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on avait des viols d'amour à cordes métalliques frottées, donc des cordes métalliques en laiton, dans les méthodes qu'on utilisait à l'époque. Et donc, quand on joue une viol d'amour à cordes métalliques, et justement, avec un luthier aussi, on en a reconstruit une, eh bien, ça donne un son en halo sonore, comme s'il y avait des cordes sympathiques. Et donc... Le deuxième moyen d'obtenir un son en halo sonore, c'était de rajouter une deuxième rangée de cordes. Et là, l'instrument devenait à l'inglese. Hein, et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le livret du disque, on a mis beaucoup de textes, d'informations sur tout ce thème. Ce qui fait que je pense qu'il y a énormément de gens qui vont être très intéressés par cette démarche. Thank you.
avez toujours été attiré par, enfin, tisser des liens, j'allais dire, avec des luthiers, avec des chercheurs, mais dans une réflexion un peu globale par rapport à la musique, que ce soit, et pas uniquement la partition. Comment est-ce que c'est venu progressivement dans votre parcours? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez en vous dès le début? Comment c'est arrivé, tout ça?
Oui, je pense parce que, bon, déjà, le fait de s'intéresser à la viole de gambe, au violoncelle baroque, hein, dans les années... j'ai commencé en 78-79 à jouer du violoncelle baroque. Et donc je crois que j'étais l'un des premiers à avoir en France un violoncelle baroque dans l'état d'origine. Hein. Et après, bon, il y en a eu d'autres.
Mais qu'est-ce qui vous a attiré justement à ce moment-là, d'arriver dans... Est-ce que c'était le côté aussi de, j'allais dire, de vous diriger dans des, vers des terrains, vers des terres, des contrées qui étaient justement un peu vierges d'une certaine manière?
Moi, disons que j'ai eu une formation de guitariste classique et de violoncelle moderne. Et ces instruments-là m'ont amené à pratiquer des... que ce soit en musique soliste ou en musique de chambre ou musique d'ensemble, du répertoire baroque. Et très rapidement, le fait de faire de la guitare, ça m'a orienté un peu vers le luth. Donc j'ai fait du luth. Et puis le violoncelle, ça m'a amené à faire du violoncelle baroque parce que j'avais envie de faire de la musique avec d'autres musiciens. Et de but en blanc, ça m'a fait découvrir oui, ces instruments qui, à l'époque, étaient vraiment très confidentiels, hein, il faut le dire. Et donc, plus tard, il y a un instrument qui m'a pas mal interpellé, ça a été le baryton à cordes. Bon, j'étais le premier en France à jouer du baryton à cordes, et de toute façon, on n'est pas très nombreux, même dans le monde. Hein. Mais disons que ça commence à se développer, donc ça c'est intéressant. Et surtout, on pensait que dans le répertoire du baryton à cordes, qu'il y avait surtout la musique de Haydn, qui est magnifique. Et d'ailleurs, je pense très fortement à enregistrer les trios de Haydn, enfin, donc les divertissements pour baryton à cordes, alto et basse. Ça, c'est l'un de mes projets. Et donc, j'ai demandé à François Baudard, un ami luthier belge qui est assez extraordinaire, qui fait des instruments vraiment sublimes, avec des qualités acoustiques vraiment très proches des instruments anciens. Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer des instruments anciens, des violes anciennes. Quand on joue des instruments de ce luthier-là, on a l'impression d'avoir un instrument ancien, mais en meilleure forme, parce que le gros problème des instruments anciens, c'est que souvent, ils ont 250 ans, 300 ans, et souvent, ils sont un peu mal, parce que ils ont subi quelques avaries, on va dire. Et donc, François Baudard, on s'est mis sur le coup de refaire un instrument, il y avait des modèles dans les musées, donc on a été voir plusieurs modèles. Et puis finalement, à la fin, il a tout refait les plans. Et puis on a fait un peu notre modèle.
Mais c'est ce que j'allais vous demander justement, la touche personnelle dans tout ça.
Parce que ce qui est important, c'est de bien établir les proportions de l'instrument. Donc voilà, intérêt, il est né aussi de cette curiosité que j'avais. Puis surtout, une recherche sonore, une recherche de son en halo sonore. Ça m'a toujours branché, de vraiment de longue date. Mais que j'ai connu un peu déjà en faisant de la guitare ou en faisant du luth. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Et puis surtout, ça m'a fait découvrir que le baryton à cordes, un peu comme la viole d'amour, était un ou deux arbres qui cachaient toute une forêt donc d'instruments d'amour. Et donc, grâce à cette recherche et puis cet enthousiasme avec ses amis chercheurs et musiciens et luthiers, finalement, on a redécouvert ces instruments. Là, je vous présente le violoncelle anglaisé, mais il est évident qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont en train de sortir, comme la lyre à viol, parce que les violistes jouaient le répertoire de la lyre à viol, qui est un répertoire souvent en scordature. Hein. La scordature, c'est une manière différente d'accorder. Au lieu d'accorder en quarte et tierce, hein, sur la viol, on accorde en général sur des accords majeurs ou mineurs, on va dire. Donc quand on passe l'archet ou les doigts, on a un accord parfait. Et donc, ce qui fait évidemment ce qui procure une sonorité vraiment formidable. Simplement, bon, les violistes jouaient ça sur des petites bases de viol. On est persuadé depuis pas mal d'années, hein, 20-30 ans, que bon, la lyre à viol était donc une petite base de viol entre la ténor et la basse. Et donc, il y a même des violistes qui enregistraient des disques en disant voilà, c'est de la lyre à viol. Simplement, ils ont peut-être oublié de lire les textes. Et tous les textes s'accordent à dire, et donc des textes anglais, qui sont vraiment, dont je donne les sources encore une fois, et qui sont très très bien décrits avec ces fameuses cordes sympathiques, aussi bien la lyre viol que the pardon viol, hein, qui naissent au début du XVIIe siècle. Et donc après, il y a évidemment cette curiosité de l'étranger, on se dit ouais. Voilà, c'est incroyable, on a entendu une viol avec un son magnifique. Donc les nouvelles se sont répandues comme ça, et donc on parlait du son étrange et d'une très très grande beauté de cette lyre à viol. Et c'est vrai que aussi avec ces luthiers, on a reconstruit ces fameuses lyres à viol. Alors il n'y en avait plus dans les musées, ça c'est sûr, ça c'est clair. Mais simplement, on avait quand même des textes qui parlaient des cordes sympathiques. Donc, on a mis au point un modèle sans avoir d'exemple, hein, puisqu'il n'y en a pas. Simplement, par recoupement d'autres instruments, on a fait un peu de la manipulation génétique, on va dire. On a pris de l'ADN d'autres instruments leur remettre sur cela. Et donc, une chance extraordinaire aussi, c'est que on pensait que tous les violoncelles à ligne glaisée avaient disparu, qu'on n'en trouverait plus jamais. Donc la chance a fait que moi, j'ai découvert des instruments du 18e, deux violons d'amour déjà, hein, dont un français et puis un italien à cinq cordes boyaux, cinq cordes sympathiques, qu'on appelait d'ailleurs en Italie violino a cinque corde. Et puis, donc, on s'est beaucoup inspiré de ça pour refaire le violoncelle anglaisé avec le facteur Christian Rowe. Et donc, ça a marché génialement, hein, le concept. D'ailleurs, on pourra prendre quelques exemples pour vous faire écouter un peu quelques cordes à vide et puis d'entendre les cordes sympathiques. Et puis... Donc, on a eu la chance de rencontrer c'est un luthier qui est venu à l'un de mes concerts dans l'Ouest, là, et dit « Ah, mais moi, ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites. Moi, j'ai eu à restaurer dans mon atelier un violoncelle d'amour, à cordes sympathiques. »
Comment on tombe sur un instrument comme ça?
Du début 18e.
Qui lui avait donné?
Eh bien, alors, c'était un collectionneur qui était très ami avec la comtesse de Chambure, et vous savez que la comtesse de Chambure était cette femme qui a une collection extraordinaire d'instruments anciens. Donc, c'est elle qui a prêté beaucoup d'instruments dans les années 60-70. Par exemple, elle a prêté très longtemps une viole de gambe, une basse de viol à Jordi Savall, ou à Jean Lamy, qui était aussi un violiste français des années 60. Cette femme-là, elle a permis à plein de musiciens de jouer sur des instruments anciens directement. Cet ami de Madame de Chambure a apporté à ce luthier que je connais un instrument authentique et qui a été authentifié. Hein, et voilà, ça a été génial qu'une preuve comme ça nous soit donnée. Parce que je pense quand même que c'est important. Parce qu'à partir de là, par rapport au texte, aux partitions, hein, tout le travail de comment instrumenter... Quand Vivaldi parle d'instruments à ligne glaisée, par exemple de concerto di viola à ligne glaisée dans Judith Triomphance, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'orchestre, à cordes, où d'ailleurs il y a plusieurs instruments avant, comme des hautbois, des chalumeaux, et souvent Vivaldi aimait bien mélanger tous ces timbres pour obtenir quelque chose d'assez... cette sonorité en halo sonore et côté mystique, hein, aussi dans le concerto funèbre où il emploie aussi trois viols à ligne glaisée. Donc forcément c'était très intéressant de trouver finalement les véritables instruments qui correspondaient à l'écriture de Vivaldi Et dont il y a eu évidemment des articles musicologiques toutes ces dernières années où les gens se posaient vraiment la question est-ce qu'il y avait de cordes sympathiques ou pas. Simplement, bon, si chacun on travaille dans son coin, forcément on va perdre beaucoup d'éléments du puzzle. C'est vraiment comme un puzzle. Et si on travaille entre musicologue, organologue, luthier, musicien, là c'est formidable parce qu'on arrive à que tout se joigne et on arrive vraiment à donner un sens à tout ça.
Est-ce qu'il y a une quête derrière tout ça ?
Une quête, je pense. Oui, une quête de sonorité. Puis, moi, je me suis aperçu que ces instruments-là.
Personnellement, je voulais dire, est-ce que personnellement, vous êtes musicien ? C'est vrai qu'il y a tout un aspect. On a parlé d'Indiana Jones, de recherche, de chercheur, voilà. Etc. Vous êtes professeur également, donc de transmission de ce savoir, de tout ça. Mais personnellement, en tant que musicien, donc artiste, interprète, lecteur de partitions.
Moi je pense qu'il y a une recherche d'un maximum sonore d'un optimum. Et c'est vrai que c'est des instruments qui nous permettent de faire passer plein d'émotions. Et ça, je vois à chaque concert. Et c'est ce qui était décrit déjà à l'époque. Le fait qu'il y ait vraiment des sons avec beaucoup d'harmoniques supérieures. Donc, on peut vraiment faire passer beaucoup d'ambiance, de climat. Et c'est vrai que, moi, quand j'ai interprété ces sonates de Vivaldi, qui était plusieurs fois à Venise, quand on voit la lumière, le scintillement du soleil sur les flots, sur le lever du jour, la nuit, enfin, disons que toutes les lumières qu'on peut sentir comme ça, je pense que les instruments ligne baisée, accords sympathiques permettent vraiment de dépeindre toutes ces atmosphères et aussi évidemment toutes les passions de l'âme, enfin tous les sentiments humains, donc évidemment qui sont racontés dans toutes ces pièces de Vivaldi, qui sont vraiment très profondes. Enfin, il y a une écriture de Vivaldi dans ces sonates qui est pas le Vivaldi tape à l'œil, mais vraiment il y a une certaine profondeur.
Dans l'œuvre de Vivaldi, quelle valeur vous donnez à ces pièces ?
Moi je trouve que si on les compare aux sonates de Vivaldi qui sont plutôt basées sur la virtuosité, ce qui ne veut pas dire que dans les Allegro de Vivaldi, évidemment il y a aussi de la virtuosité, mais il y a toujours une poésie, puis il raconte toujours une histoire. Il y a vraiment des passages fantasques. Un peu comme des personnages qui passent derrière vous dans une des ruelles de Venise. Enfin, il y a des très beaux largots. On a l'impression parfois d'entendre des airs d'opéra, par exemple. Je pense que c'est une musique qui est très, très inspirée et qui, dans son œuvre, je pense, représente quelque chose de son côté profond et un peu mystique, on va dire. Bon, il était quand même prêtre, hein. Bon, même s'il n'a pas beaucoup officié en tant que prêtre, je pense qu'il était, comme beaucoup de compositeurs, comme Bach, ils étaient souvent habités par tout le côté religieux. Et là, c'est vrai que la musique, qu'elle soit sacrée ou profane, en tout cas, menait toujours vers une ascension de l'âme. Donc c'est vrai que comme les sons comme ça s'en vont, s'éloignent, s'échappent, comme ça, c'est vrai qu'on peut vraiment dépeindre énormément d'émotions, quoi.
Avant que vous nous fassiez peut-être découvrir quelques particularités de cet instrument, je voudrais savoir quel impact a sur vous ces recherches, ces découvertes de sonorités, d'instruments, quel impact cela a sur votre approche de certaines partitions, de certains compositeurs, de certaines œuvres parfois que vous avez peut-être étudiées dans un premier temps, même jouées, et que vous êtes amené peut-être à rejouer différemment de par la découverte d'un nouvel instrument, d'une nouvelle sonorité.
Oui, je pense que ça a énormément d'impact parce que déjà on apprend à dominer tout ce surplus d'harmoniques dans le son qu'on a, hein, donc de l'organiser, donc de structurer énormément, presque on va dire d'une note à note, c'est-à-dire de mettre le meilleur poids sur certaines notes, moins de poids sur d'autres. Et cette notion de poids, d'ailleurs, on la retrouve dans des textes comme le traité de Quantz, hein, où on donne un poids à la note. Donc, ce qui veut dire que, bah, évidemment, il faut jouer très détendu pour,
oui, physiquement,
pour
dire,
sentir le poids de l'archet comme on va sentir le poids du corps sur le sol. Et donc, ça donne ce côté élastique, je vais dire, enfin le côté souplesse, hein, comme les articulations. Donc il faut utiliser des techniques de bras et de poignets très souples, hein. Et notamment, bah, moi j'ai mis en pratique aussi ce que les traités aussi nous a enseigné, comme le concept complètement fondamental du contre-mouvement. Le contre-mouvement, il est décrit par les violistes la plupart du temps, mais aussi, je pense, s'appliquait exactement de la même façon au violoncelle ou au violon. C'est-à-dire que c'est une anticipation du coude par rapport au poignet. Et cette technique permet d'abord une très grande relaxation et elle permet de donner dans le spectre sonore, de donner un son avec plus ou moins de son fondamental ou de jouer sur les harmoniques supérieures, ce qui donne ce côté aérien. En fait, bon, on va donner beaucoup de timbre, donc on va avoir du poids. Si on joue sur les harmoniques supérieures, on va avoir au contraire les notes qui s'envolent. Et donc, par rapport à tout ça, il y a énormément de possibilités d'interprétation. Puisqu'on a le clair et l'obscur, on a le poids et le non-poids, on a le dit et le non-dit. Donc voilà, on est complètement dans la fabrication de toutes ces courbes qui, évidemment, définissent tout l'art baroque.
Est-ce que personnellement, il y a justement des œuvres que vous avez vues de manière complètement différente après avoir des
œuvres précisément ? Oui, en fait, c'est-à-dire d'apprendre sur ces instruments-là, après même ça vous fait jouer différemment, ça vous fait nourrir plus le son sur un instrument normal, aussi bien baroque que moderne d'ailleurs, hein, puisque moi j'ai à la fois des élèves qui viennent du moderne ou qui ont été élevés directement aux instruments anciens. Mais en tout cas, bon, de toute façon, le problème est toujours le même. C'est, si on veut avoir un beau son, si on ne comprend pas ce qu'est le phénomène sonore, je pense qu'on court après une chimère. Je pense que c'est fondamental de connaître tous ces instruments. Et de toute façon, je pense vraiment qu'il y a de plus en plus de gens qui vont s'y intéresser. Parce que là, je pense que j'ouvre une porte complètement nouvelle pour plein de musiciens qui s'ils s'intéressent à tous ces instruments. Puisque bon, il y a quand même le violon d'amour, il y a la violette anglaise, il y a la viole d'amour à cordes sympathiques, mais aussi la viole d'amour à cordes métalliques. Il y a la viole d'Orphée aussi, hein, qui était une viole française décrite par Michel Corrette, qui est en fait comme une viole d'amour, mais en basse, et avec des cordes métalliques. Mais pas des cordes métalliques de violoncelle moderne, hein, c'est des cordes métalliques d'époque, cordes de clavecin et autres. Et je vous assure que ça marche généralement et que ça produit des sons fantastique. Et moi, j'étais souvent abordé par exemple des compositeurs ou des musiciens à la fin des concerts qui trouvaient ces instruments assez géniaux pour faire de la musique contemporaine, puisque ça, on a des sons nouveaux. Donc c'est à la fois ancien, mais c'est complètement nouveau.
Est-ce que c'est justement aussi cet aspect-là, c'est-à-dire travailler avec des compositeurs contemporains?
Ah oui, bah, moi ça m'intéresse
qui justement
beaucoup,
sortira un peu le côté parfois qu'on peut reprocher justement à personnes qui sont trop plongées dans ce côté, cette quête de vérité, de sonorité.
Là par exemple, on sort d'un magnifique projet avec un compositeur argentin là, qui s'appelle Gerardo Jerez Lecam, donc qui est pianiste, hein, et qui pour l'occasion joue aussi du clavecin. Et donc les compositions se sont appelées Baroque Tango. Hein, enfin, le nom, en tout cas, c'est le nom du spectacle. Et donc, il y avait 1h30 de pièces originales pour donc, 2 violons d'amour, baryton à cordes, violone d'amour, piano ou clavecin et bandoneon avec Juanjo Mazzolini. Et donc ça a été une musique mais complètement géniale. C'était un peu le thème des préludes des fugues, mais donc façon baroque et façon tango avec des rythmes de tango, de milonga, de kadombe. Et donc ça a été un peu une idée originale de mon ami Philippe Le Corf, donc qui joue le violon à l'inglaisé et qui dirige l'aria. Donc à Rezé, et donc ça c'était un très très gros succès public. On a rempli à chaque fois des très grandes salles, et c'est vrai que c'est la musique, on peut appeler ça la musique fusion, hein, bon, avec bon un apport de musique, c'est même pas la musique folklorique, le tango c'est déjà presque classique, on va dire, avec des gens comme Piazzolla, tout ça. Donc, par exemple, bon, Gerardo avait joué avec le pianiste de Piazzolla justement des fugues de sa composition. Et là, je l'ai vu encore hier lors d'un concert, et Gerardo me disait, mais depuis qu'on a fait ces concerts, ça m'a révolutionné l'esprit, et je ne pense plus qu'à ça. Et enfin, voilà, pour vous dire qu'on a un impact ça, extraordinaire. Ouais. Sur les compositeurs, parce qu'ils trouvent un terreau et bon, des manières de colorer les sons et donc de colorer la musique est vraiment extraordinaire.
Alors justement, peut-être qu'on peut... Alors évidemment, je préciserai que, avant peut-être de vous entendre avec votre violoncello à l'inglaisé, qu'il y a effectivement une prise de son assez impressionnante sur l'album des délices de Prudenza, donc des sonates pour violoncelle de Vivaldi. Là, peut-être que vous pouvez effectivement peut-être nous montrer un petit peu, nous faire entendre quelques spécificités, oui, les cordes sympathiques.
Voilà, il faut voir un peu comment ça fonctionne. Et je vais passer l'archet sur quelques notes. Donc alors, il se trouve que mon violoncelle à l'inglaisé est monté de 5 cordes de boyau à partir du Do. Donc on a les 4 cordes normales du violoncelle plus la 5e, comme souvent sur les violoncelles piccolo, hein. Donc c'était très courant d'avoir des violoncelles à 4 ou 5 cordes à l'époque, hein. Même Charpentier parle dans une de ses œuvres d'un violoncelle, enfin exactement d'une base de violon à 5 cordes, voilà, donc ça c'est une chose très courante. Et dans, chez Vivaldi, il y a souvent des concertos qui sont justement où il faut la 5e corde. Donc voilà les premières notes graves. Et donc il y a une deuxième rangée de cordes, d'ailleurs qu'il faut bien accorder, puisque quand c'est très bien accordé, alors ça booste énormément le faisceau sonore qui sort.
On accorde la base en fait de la rangée de cordes.
Là, donc j'ai des chevilles, donc en haut du chevillet, qui sont en fait hein, des chevilles de violon, parce qu'évidemment elles ne peuvent pas être aussi grosses que celles pour accorder les cordes en boyau. Donc le chevillet est assez grand, hein, vous apercevez. Voilà, et puis donc on a des mini accordeurs pour peaufiner l'accord. On a 7 cordes sympathiques, on les tond et on fait. Et donc ces cordes de métal, en fait, quand on joue n'importe quelle corde et n'importe quel son, va se nourrir elles vont faire vibrer par sympathie en fait automatiquement les cordes métalliques qui sont donc appontées sur le chevalet. Donc en fait, il y a deux étages de cordes. Et les cordes, elles passent évidemment sous le manche, sous la touche, hein, passent derrière le chevillé. D'ailleurs, il y a, si vous voyez, il y a deux sillets. Donc c'est, vous voyez, c'est assez compliqué hein, pour faire passer toutes ces cordes-là. Mais disons que, bon, une fois qu'elles sont montées, en principe, on peut les garder pas mal de temps, hein, voire des années, bah, ça bouge assez peu.
Les bois utilisés, quels sont les bois utilisés en général pour ça ?
Bon, les bois, c'est comme n'importe quel instrument. Hein. On a une table en épicéa, et puis un bel érable ondé pour les éclisses, le fond, et puis le chevillé. Et puis on a une touche qui est marquetée en ébène, hein, pour quand même que ça soit assez dur à cet endroit-là. Et donc c'est ce phénomène acoustique, hein, non seulement ça fait vibrer pas mal de cordes sur chaque son, et donc ça évidemment rajoute, ça enrichit, c'est un enrichisseur de son en fait. Qui parlions de scordature. Alors ça, c'est très intéressant aussi parce que donc les cordes sympathiques, déjà, on peut les diéser ou les bémoliser selon les tonalités qu'on joue. Et là aussi, ça enrichit vraiment beaucoup certaines tonalités, on va dire, qui seraient un peu plus ternes. Et puis, bon, ce qui est très intéressant, c'est par exemple, si je veux faire une scordature... Là, j'ai monté... l'accord de Do en Ré. Et puis, par exemple, je vais faire maintenant le Sol, je vais le monter en La. Le Ré, je vais le monter en Mi. Le La, je le laisse à sa même place. Et le Mi aussi. Voilà, donc là, on est dans une scordature. Vous voyez, donc une dynamique du son complètement différente. Ça métamorphose l'instrument. Et donc, si je veux booster encore plus, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, je vais... Par exemple, je vais mettre un fa dièse. Et donc ça va encore plus dégager. Donc ça permet d'avoir une attaque, mais complètement incroyable. Donc des possibilités dynamiques... Ça va faire un peu trompette, hein, cette scordature. Et donc, cette scordature, elle est, encore une fois, elle est utilisée par pas mal de... par Pachelbel, par Bieber, Vivaldi, probablement aussi des gens comme Tartini. Moi, j'ai découvert, par exemple, par hasard, une image où on voit Tartini avec un manche de violon. Alors, est-ce que c'était une viole d'amour ou un violon d'amour ? On voit très très bien une crosse comme ça avec plein de chevilles. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de musiciens à l'époque qui ont joué des instruments justement à cordes sympathiques qu'on ne pense. Et donc, par exemple, dans ce fameux concerto pour violon et violoncelle à l'inglaisé, je crois que c'est le 446, RV 446. Moi, je pense, de toute façon, on a fait un essai avec un ami violoniste. Le violon aussi, il faut l'accorder comme ça. Alors, donc les cordes sympathiques, si on joue en scordature, ça marche sur un instrument normal. Mais parfois, quand on monte un peu en position, il y a des endroits où ça sonne un peu moins bien. Ça sonne très, très clair quand c'est à vide. Quand on monte en position, c'est un peu moins bien. Le fait d'avoir des cordes sympathiques, ça rebooste les manques. Les vides qui se créeraient dans certaines tessitures de la scordature. Donc, la scordature, c'est donc cette manière différente d'accorder.
Est-ce que personnellement, on a évoqué la composition, quand contemporaine, la composition sur ces instruments, c'est quelque chose que vous pratiquez, vous, personnellement ?
Non, parce que c'est vraiment quand même un métier. Bon, alors, évidemment, j'ai créé un peu des petites choses dans ma carrière, mais bon, j'ai fait quelques musiques de scène, par exemple, musique pour court-métrage, des choses comme ça. Mais disons que bon, c'est vraiment un vrai métier. Faut se sentir l'envie d'écrire et de bon. Je pense que ça, c'est. Je crois qu'on est compositeur ou comme on est écrivain.
La découverte, en fait, justement, de ces nouvelles sonorités, de ces instruments, ne touche pas en vous l'éventuelle fibre du compositeur et ne vous.
Non, parce que bon, vraiment, il y a tellement de. Je trouve de gens qui écrivent très bien, enfin, qui passent leur vie. Enfin, je veux dire, si on veut être un bon compositeur, je pense qu'il faut énormément écrire. Donc, moi, j'ai pas le temps de, j'ai pas ce temps-là. Et puis, peut-être pas non plus l'envie. Moi, je suis vraiment un interprète avant tout. Hein. Ce qui ne veut pas dire que on est tout le temps en train de aussi d'improviser. On improvise beaucoup de choses. Hein. Aussi bien, d'ailleurs, en musique ancienne, avec tout ce qu'on c'est des diminutions, je ne sais pas, à l'époque de Dick Ortiz, ou de l'augmentation dans des sonates justement de Vivaldi ou d'autres Italiens. Enfin, c'est un passage obligé. Et puis, quand on fait de la musique contemporaine, il y a toujours, le compositeur vous laisse toujours quelques pages vides pour les remplir et pour les improviser. Mais ça, c'est, donc c'est intéressant. Mais bon, de là à écrire, bon, si je peux écrire quelques thèmes, quelques enchaînements harmoniques, mais. Voilà, je me sens pas l'âme d'un compositeur.
Vous avez parlé tout à l'heure d'échanges avec des compositeurs éventuellement. Est-ce qu'il y a des échanges justement par rapport à ces découvertes avec d'autres solistes, d'autres musiciens, de leur faire découvrir justement ces nouveaux. Vous avez personnellement même travaillé avec un nombre de musiciens célèbres, etc.
Oui,
est-ce que
oui,
vous
voilà,
échangez
oui.
avec eux? Parce que vous êtes un peu quand même, vous avez quand même une grande facette de vous qui est un peu ce côté chercheur justement, que eux n'ont peut-être pas. Est-ce que vous avez...
Je pense que... Ouais, mais il y a une sorte de... C'est-à-dire que moi, ça fait vraiment... par exemple, depuis 2001, on a ressorti la viole d'Orphée. Alors évidemment, moi je fais partager, bon, par exemple, à mes amis violonistes, je leur fais découvrir le violon d'amour, hein, puisque j'en ai fait reconstruire. Forcément, ils sont hyper... intéressés et même subjugués... par l'approche de ces instruments. Et donc, la réaction est assez unanime. Bon, après, pour aller voir les collègues, pour... je veux dire, moi, c'est une... j'en suis encore à une phase expérimentale. Enfin, je veux dire, par exemple, sur la lyre à viol, bon, les lyres à viol, elles ont été construites cette année. Donc, moi, déjà, je suis en train d'apprendre à les jouer. Enfin, bon, j'ai fait déjà plusieurs récitals... je commence à connaître pas mal de scordatures différentes. Mais bon, c'est vrai que bon, ce qu'il y a de formidable dans ce métier-là, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. On est toujours en train de découvrir des choses nouvelles. Et c'est vrai que c'est toutes ces pratiques instrumentales. Alors évidemment, il y a vraiment un fond commun. Et puis, et je pense que plus on a d'éléments, plus on arrive à, comme je disais tout à l'heure, retrouver tous les maillons de la chaîne, enfin, ou les pièces du puzzle. Évidemment, moi, je tiens pas à tout garder pour moi, donc d'où les stages où j'enseigne. Par exemple, là, au mois d'octobre prochain, je vais jouer à la Biennale de violoncelle d'Amsterdam, hein, tous les commentaires sont d'ailleurs effectués par Anne Herbelsma, qui présente tous les concerts. Donc, avec un collègue hollandais, on va se partager, par exemple, tout un programme. Enfin, on aura un concert de 2 heures. Moi, je fais 1 heure où je jouerai à la fois la lyre à viol, enfin, les lyres à viol, puisque je vais jouer plusieurs scordatures. Je vais jouer le violoncelle inglesé dans une sonate de Vivaldi et dans une sonate... de Johann Friedrich Christoph Bach, qui a écrit une sonate concertante pour violoncelle et pianoforte, qui est magnifique. Et donc, je vais jouer une partie de violoncelle dans des trios barytons. Et donc, c'est ce collègue hollandais qui jouera le baryton et sa femme jouera l'alto. Et ce collègue jouera aussi l'arpégione. Voilà, ça va être un concert assez exceptionnel par sa programmation.
L'enseignement, c'est quelque chose d'essentiel pour vous par rapport à ce côté justement de transmission. C'est-à-dire, vous faites des découvertes. J'imagine qu'au fond de vous-même, il y a aussi la volonté, vous l'avez évoqué tout à l'heure, non seulement de répandre un peu toutes ces découvertes.
Oui, exactement. Et puis bon, c'est vrai aussi, il y a certains collègues qui s'intéressent. Et bon, évidemment, moi, je suis prêt à leur donner mes informations. Parce que bon, on ne garde pas quelque chose comme ça pour soi. C'est évident, ça serait complètement idiot comme démarche. Mais bon, évidemment, c'est aussi des remises en question. Hein. C'est-à-dire qu'on aborde ces instruments-là. Si on joue avec... par exemple, avec un bras ferme mais pas souple, il y aura des problèmes. Enfin, c'est-à-dire que voilà, il y a des clés pour chaque instrument, et c'est ça qui est intéressant. Et que oui, je suis prêt à expliquer comment développer ces techniques.
Des projets, sinon, après la sortie de cet album, en termes déjà d'enregistrement ou des envies futures, lointaines.
Bon, bah oui, bon, ça.
Sur des œuvres en particulier.
Énormément
de
projets, hein, justement, bah, d'enregistrer. Tous les lyra violistes anglais, le Capitaine Hume par exemple, Jenkins, Lowes, Ford, enfin on a une mine d'or, enfin hein, on a des centaines voire des milliers d'œuvres à jouer. Donc il y avait une centaine de scordatures. Bon, je commence, j'en ai répertorié déjà une bonne cinquantaine. Et donc, ça me plairait beaucoup de commencer à enregistrer. C'est lyra violiste. Mais aussi, il y a peut-être des bacs en gestation aussi. J'ai pas mal de... Les trios baryton de Haydn, j'en ai parlé tout à l'heure. La musique contemporaine aussi. J'en avais plein d'autres. Hein, mais bon, il me faut un peu de temps.
Ouais. Bon, en tout cas, d'ici là, si... Ceux qui nous écoutent veulent découvrir un peu le halo sonore, la richesse sonore de tous ces instruments. Donc je rappelle que le double CD d'Elise de Prudenza, donc l'intégrale des sonates pour violoncelle de Vivaldi, donc vient de sortir chez Native. Philippe Foulon, voilà. Merci beaucoup.
Donc, je tenais à remercier notre ami Franck Bénéi pour toute la confiance. Nous a donné sur ce projet, et puis surtout de pouvoir faire aussi bien une recherche sur les sonorités, mais aussi de pouvoir consigner un peu de toute cette recherche sur le livret. Et ça, il y a peu de, je trouve, de maisons de disques qui nous donnent cette possibilité-là. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, très important pour la diffusion du savoir. Donc je rends hommage pour ça.
Merci Philippe Foulon.
Merci, au revoir.
Rencontre par Marc Zisman.